Amen, amen. Nous allons passer alors au message.
Savez-vous que le régime sous lequel nous vivons est celui de l'Alliance? Savez-vous que cette Alliance nous lie tous les uns aux autres? Est-ce que vous êtes déjà posé la question aux implications que ça a d'avoir une Alliance commune? En tout cas, apparemment, le peuple auquel s'adresse le prophète Malachi, et oui, c'est toujours Malachi qui nous accompagne jusqu'à la fin de l'année. Apparemment, le peuple auquel s'adresse le prophète Malachi, il n'avait pas vraiment bien compris la notion de l'Alliance, mais d'une manière générale. Pour lui-même, pour son peuple, etc., etc. En fait, ce peuple, il était vraiment dans un état déplorable au niveau spirituel. Vous vous souvenez, Malachi, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Il a été écrit environ 100 ans après que le peuple qui était en captivité est revenu à Jérusalem. Le temple avait été reconstruit, mais il n'était pas aussi bien qu'avant. Le culte avait repris, mais ce qu'on a vu la dernière fois, c'est que les sacrificateurs et le peuple apportaient des offrandes estropiées. C'est ce qu'ils jugeaient bon pour le Seigneur. Enfin, c'était vraiment une catastrophe. Ce qui fait que le Seigneur a utilisé Malachi pour redresser son peuple. Et il a parlé déjà de Jacob et Ésaü. Il a expliqué pourquoi sa faveur, elle était dans Jacob et pas dans Ésaü. Ensuite, il reprend les prêtres au niveau du culte, au niveau des sacrifices. Et puis maintenant, il parle d'une autre alliance. Ce texte qu'on va lire aujourd'hui, c'est au milieu du livre de Malachi. C'est le cœur, c'est le centre. Et je peux vous dire, c'est du costaud. Et si j'avais pu passer à pied joint par-dessus, je l'aurais fait. Mais j'aurais désobéi. Et ces temps, j'ai l'impression d'être souvent mise au défi. Tant pis, j'y vais. Malachi 2, à partir du verset 10. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre, en profanant l'alliance de nos pères? Judas s'est montré infidèle, et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem. Car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel. Il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. Car l'Éternel retranchera l'homme qui a fait cela. Celui qui veille et qui répond, il le retranchera des tentes de Jacob. Et il retranchera celui qui présente une offrande à l'Éternel des armées. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi ? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait, et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde dans votre esprit, et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Si je reprends le verset 10, n'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Là, il ne s'agit pas d'Adam, il ne s'agit pas d'Abraham, il ne s'agit pas de Jacob, il ne s'agit pas de Moïse, il s'agit de Dieu. Dieu, le Créateur. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre en profanant l'alliance de nos pères? Alors là, les pères, eh bien, ce sont justement les patriarches, parce que Dieu a fait alliance. Il a fait alliance avec l'humanité, en Noé par exemple, mais avec Abraham, il a fait alliance. Il a fait alliance et lui a donné une promesse, la promesse d'avoir une descendance spirituelle. Nous sommes tous les croyants, nous sommes tous les enfants d'Abraham. Il a fait une promesse que sa descendance, que sa postérité amènerait au Messie. Il lui a fait cette promesse et il a fait une alliance avec lui qu'il a renouvelée au fil des siècles. Et puis on peut lire cette alliance ou le renouvellement de l'alliance parce qu'on la retrouve à plusieurs endroits, mais par exemple dans Exode. Exode au chapitre 19, les versets 5 et 6, pour savoir en fait c'est quoi la teneur de cette alliance. Exode 19, les versets 5 et 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Vous serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Et c'est quelque chose qui est toujours valable, parce que c'est repris dans le Nouveau Testament. Par exemple, Pierre, il en parle. Pierre, dans son épître, la première, 1 Pierre 2, au verset 9, il dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Nous sommes toujours au bénéfice de cette promesse et de cette alliance qui a été faite au début de l'Ancien Testament. Nous sommes ce peuple aujourd'hui, en Jésus-Christ, par l'alliance dans le sang de Jésus. Et il en est même question pour la fin des temps, il en est même question dans l'Apocalypse, au chapitre 1, le verset 6. Je vous lis juste un petit peu avant. « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Donc cette alliance, elle est d'une importance, je pense qu'on n'a pas les mots pour expliquer combien cette alliance elle est importante. Et là, qu'est-ce qui se passe? Malachie est en train de dire, mais vous êtes infidèles les uns envers les autres par rapport à cette alliance de nos pères. Donc, cette alliance de Dieu que Dieu a donnée à nos pères et qu'il a renouvelée et qu'il a rappelée. Parce que ce qu'il faut comprendre avec cette alliance qui dit qu'on est un peuple saint de sacrificateurs, ça veut dire, à l'époque pour Israël et nous aujourd'hui, ce peuple-là, il est séparé des autres peuples. C'est une mise à part, c'est une consécration. Séparés des autres peuples. Pour nous, c'est dans le monde, mais pas du monde. On est séparés, on fait la différence. Vous vous souvenez, Malachie, il y a un verset qu'on verra bientôt qui dit « On verra la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » C'est à ça qu'on est appelé. Appelé à faire la différence dans notre société. Alors voilà, Malachie, il accuse son peuple d'être infidèle à cette alliance et d'être infidèle les uns envers les autres. Puis il explique pourquoi. Au verset 11, il dit « Judas s'est montré infidèle et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem. Car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel. Il s'est uni à la fille d'un dieu étranger. » Judas, c'est qui Judas? Là, on peut dire, il s'agit de la tribu. En fait, il y avait Israël qui s'est partagé en deux. Il y a eu Israël, il y a eu Judas. Et en fait, c'est la tribu de Judas qui était en captivité et qui est revenue à Jérusalem. On pourrait se dire, ben voilà, c'est le peuple. Mais en fait, si on va creuser un petit peu plus, Judas, c'était qui à l'origine? C'était un des 12 fils de Jacob. Et Judas, c'est lui qui portait en lui-même la semence qui allait de génération en génération amener à Jésus. C'est lui qui était porteur de la promesse. Et qu'est-ce qu'il a fait, Judas? Qu'est-ce qu'il a fait, Judas, pour qu'on en parle ici? Eh bien, on trouve ça dans la Genèse, au chapitre 38. Je vais vous lire depuis le premier verset, mais je vous laisserai lire les suivants à la maison et reprendre cette histoire. Parce que sinon, je vais mettre à dévier, tellement il y aurait des choses à dire. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères, et se retira vers un homme d'Adullam nommé Ira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte, elle enfanta, etc. Après, je vous laisserai lire le reste de l'histoire. Mais qu'est-ce qui a marqué? À un moment donné, Judas s'est séparé de ses frères pour aller prendre une fille cananéenne. Qu'est-ce qui s'est passé? Judas, à un moment donné, il est sorti de l'alliance pour aller faire une alliance à part. Et en cela, il a été infidèle à son peuple. Plutôt que de trouver une épouse dans son peuple, plutôt que de rester sous l'alliance, il en est sorti. Il s'est éloigné de ses frères. Et c'est ce que Malachie est en train de dire. Il est en train de dire aujourd'hui, vous êtes en train de faire exactement la même chose. Vous continuez à faire pareil. Vous continuez à sortir de l'alliance et à amener des personnes, des Cananéens, des Cananéennes, dans le peuple. C'est pas possible. En fait, pour bien comprendre l'histoire, imaginez, vous êtes dans un magasin, ou sur Internet, ou je ne sais pas, et puis il y a plein d'articles. Alors, normalement, il y a une loi, enfin, on peut enlever le normalement, il y a des lois. Si vous allez au magasin, qu'est-ce qui se passe? Vous prenez votre caddie, vous remplissez votre caddie, et puis à un moment donné, vous arrivez à la caisse. Et là, pour que vous puissiez partir avec votre marchandise, eh ben, vous allez payer. Et ça, tout le monde le fait. C'est normal. Pourquoi? Parce qu'on est tous sous la même loi. La loi qui dit que quand tu vas dans un magasin et que tu mets des choses dans ton caddie, si tu veux ressortir du magasin, tu payes. Et si tu payes pas, eh ben, il y a des problèmes. Qu'est-ce qui se passe si tu payes pas puis que tu te fais choper? Tu te fais arrêter? Tu te fais juger? Selon la gravité de ton acte, tu seras en prison, tu seras retranché. Mais tu seras retranché au niveau de ton peuple. Parce qu'on va se dire, celui-ci, celle-ci, c'est un voleur, c'est une voleuse. On va plus lui faire confiance. Il y aura une étiquette, elle va porter ça sur elle. En fait, la personne, elle sort de l'alliance. Elle sort des prescriptions. Elle sort du cadre des lois qui disent, c'est comme ça que ça doit se passer et pas autrement. Si tu sors, eh ben, il y a des conséquences. Eh ben, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que le peuple est infidèle envers lui-même. Ils sont tous sous la même loi, sous la même alliance, sous les mêmes commandements. Et quand il y en a un qui ne respecte pas, il est infidèle. Il est infidèle envers Dieu, envers l'alliance, mais il est infidèle envers lui-même, et il est infidèle envers son peuple. Alors revenons-en à Judas. Sa trahison, elle est extrêmement grave. Parce que, en amenant une femme cananéenne dans son clan, dans son peuple, en quelque sorte, il a pollué son peuple. Non pas que le sang de la cananéenne était impur ou d'une autre façon que le sang des Hébreux. Le sang, il a la même couleur. On peut avoir la peau d'une autre couleur. Notre sang, il a tous la même couleur. On est tous faits avec la même pâte. Ça, il n'y a aucun souci avec ça. Par contre, il polluait son peuple parce qu'il amenait des dieux étrangers. C'était une pollution spirituelle. Les Cananéens, ils avaient plein de dieux, ils avaient plein d'idoles. Dans leur maison, il y en avait partout. Il y en avait un pour le lundi, pour le mardi, pour le mercredi, pour manger, pour tout, une idole pour qu'il fasse beau, une idole pour qu'il fasse pas beau, etc. Et toute leur vie, en fait, ils adoraient ces idoles. Parce que dans le cœur humain, il y a cette notion de Dieu, il y a cette notion de spiritualité. Alors quand on n'a pas le vrai Dieu, on le remplit avec autre chose. Ce qui fait qu'en allant chercher des femmes hors de l'alliance de Dieu, eh bien on amenait des femmes qui venaient avec leurs idoles. Elles venaient pas toutes seules. Et ça polluait. Comme Salomon, quand il a commencé à avoir plein d'épouses, plein de concubines qui n'étaient pas au Seigneur. Mais voilà, Dieu ne tolère pas ça. Au verset 12, il est dit « L'Éternel retranchera l'homme qui fait cela. » Celui qui veille et qui répond, il le retranchera des tentes de Jacob, et il retranchera celui qui présente une offrande à l'Éternel des armées. C'est dur. C'est vraiment dur. Mais ce que Dieu ne veut pas, c'est que son peuple soit fragilisé. Ce qu'il ne veut pas, c'est qu'on commence à confondre des faux dieux avec le seul vrai Dieu. Ce qu'il ne veut pas, c'est qu'on vienne mettre des entraves à sa promesse, la promesse du Messie. Si on en vient au sujet du mariage, parce que c'est de ça qu'il s'agit ici, c'est vrai que dans notre société, ce sont plus les parents qui choisissent les conjoints, le ou la conjointe de l'enfant. Il y a du pour, il y a du contre. Maintenant, c'est devenu toujours plus difficile. On peut épouser qui on veut, mais on peut aussi vraiment gérer notre vie comme on veut. Les parents n'ont presque plus leur mot à dire. Et c'est d'autant plus difficile. Ce qui fait que des fois, avant d'arriver au mariage, on a déjà conclu des alliances. Puisque le mariage est une alliance. Mais la parole de Dieu, elle ne change pas. Et pour ça, Paul y donne des prescriptions. Parce que quand on arrive dans l'église, on peut arriver dans l'église en étant bébé. On peut arriver dans l'église avant notre naissance. On peut arriver dans l'église quand on est enfant. On peut arriver dans l'église plus tard, quand on est adulte. Et on peut avoir un passé. On peut très bien se convertir après s'être marié. On peut se convertir ou avoir des compréhensions après avoir conclu une ou plusieurs alliances avec des gens qui appartiennent ou non au Seigneur. Chacun a un parcours différent. Pour ce cas de figure, Paul, il dit comment est-ce qu'il faudrait gérer ça? Est-ce que, parce que tout à coup, je me convertis puis je me rends compte que, en fait, j'ai épousé la mauvaise personne, enfin, la mauvaise dans le sens, une personne qui n'appartient pas au Seigneur, qui fait pas partie de la même alliance que moi, est-ce que je dois rejeter cette personne ou pas? Alors, dans 1 Corinthiens au chapitre 7, on a des réponses. Je vous lis à partir du verset 12. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non-croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Dieu ne nous dit pas de nous jeter les uns les autres. Il nous dit plutôt de garder notre cœur et d'assumer nos actes, que ce soit au niveau du mariage ou que ce soit dans n'importe quel autre choix, dans quelle autre activité, dans quel autre acte que nous avons fait. Mais voilà, Malachie veut aller encore plus loin. Malachie, il est vraiment fâché, ou c'est Dieu qui est fâché et qui utilise Malachie, et il lui dit, mais vas-y, tape encore sur le clou et dis vraiment les choses comme elles sont. Les versets 13 et 14. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Si l'intégrité du peuple est tellement importante, c'est tellement important de ne pas sortir de l'alliance, c'est tellement important de rester ensemble, tous, en respectant les mêmes prescriptions, l'alliance du mariage est tellement, tellement, tellement importante pour Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ici, ce sont des hommes mariés. Ce sont des hommes mariés qui jettent leur femme. Alors on voit que sur l'autel, il y a des larmes. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes. C'est quoi ces larmes? C'est qui déverse ces larmes? Certains se sont dit, c'est peut-être les larmes des Cananéennes, parce qu'elles ont apporté leurs offrandes, leurs idoles, leurs trucs sur l'autel, et puis elles ont fait des imprécations, des machins, et puis elles se sont lamentées sur ces offrandes. Peut-être. D'autres se sont dit, ce sont les femmes qui ont été répudiées par leur mari. Et c'est toute leur souffrance qu'elles vont déverser sur l'autel. Peut-être. Sauf qu'à l'époque, les femmes, elles n'avaient pas vraiment accès à l'autel. Alors est-ce que ce ne serait pas les larmes de ces hommes qui implorent le Seigneur pour toutes sortes de choses, mais le Seigneur ne répond pas parce que leur vie n'est pas en règle? Ça fait penser à ce verset dans 1 Pierre 3:7. On peut peut-être juste le lire en passant. C'est Pierre qui dit « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme comme avec un sexe plus fragile. Honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » C'est toujours le même principe. Encore de nos jours, c'est le même principe. Dieu ne pouvait pas agréer les offrandes de ces hommes qui jetaient leurs femmes. En fait, ces hommes, ils étaient mariés. Et ils pratiquaient la consommation de l'usage unique. Vous savez ce que c'est l'usage unique ? Moi, j'ai travaillé pendant des années et des années et des années à l'hôpital. Et quand on recevait du matériel, par exemple, il fallait aller faire un pansement, poser une sonde, faire quelque chose, on recevait un set à pansement. C'est-à-dire tout le matériel de pansement emballé, de façon stérile. L'emballage, c'était du tissu vert qui avait été stérilisé. Et à l'intérieur, on avait des instruments, des cupules, etc., en inox. On allait faire notre soin et quand on avait fini, on mettait tout ce qui était en inox dans le bac qui partait à la stérilisation. Et puis on mettait tout ce qui était tissu, textile, dans le sac à linge qui partait à la lingerie. Et ça nous revenait stérilisé. Et on le réutilisait, et on le réutilisait, et on le réutilisait. Mais un jour, économie ou je ne sais quoi d'autre, ce sont les sets à usage unique qui sont arrivés. Maintenant, tout ce qu'on fait, c'est emballer dans du papier et dans du plastique, même les pinces anatomiques pour faire des choses très précises, c'est en plastique, ça fonctionne pas, mais c'est comme ça, c'est en plastique, on fait notre soin comme on peut, et puis quand on a fini, on fiche tout loin. Et puis la prochaine fois, on en reprend un autre, poubelle. Et puis un autre, poubelle. Puis un autre, poubelle. Ça, c'est l'usage unique. Une seule utilisation, poubelle. Eh bien, en fait, ces hommes, à ce moment-là, ils se sont mariés, ils ont fait des enfants, les enfants ont grandi, leur épouse s'est occupée de la maison, elle a commencé aussi à prendre de l'âge, elle a commencé à être fatiguée d'aller de grossesse en grossesse, d'éducation en éducation, de s'occuper de tout ce qu'une femme de l'époque pouvait s'occuper, et à un moment donné, mais c'était tellement plus simple d'aller chercher une plus jeune ailleurs, qui était pas sous l'alliance, comme ça elle avait pas toutes ses prescriptions, ses lois et tout ça, c'était hop, on y va, on se pose pas la question, on est libre. Ben voilà où ils en étaient. Ces hommes ont usé de violence et de trahison. Et pas envers n'importe qui. Vous me direz, oui, c'était leur épouse. Mais c'est plus que ça. Regardez. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. La femme de ta jeunesse. À l'époque, les gens étaient mariés très très tôt. Et quelque part, c'était une protection. Plutôt que de grandir, et puis d'avoir les yeux qui s'ouvrent, et puis d'aller chercher, et puis de voir tout le choix qu'il y a à disposition, et puis de succomber à une certaine séduction. Mais en fait, depuis très jeune, ils savaient, bah, celui-ci, ce sera mon mari, celle-ci, ce sera mon épouse. Alors, depuis très très jeune, il faut mettre les choses en place pour que ça marche, pour qu'on y travaille, pour qu'on apprenne à se connaître, pour qu'on évolue ensemble. C'était pas juste une personne qu'on connaisse, que ses maris ne connaissaient depuis que quelque temps. C'était la femme de leur jeunesse, une personne qu'ils connaissaient depuis tout petit. Mais en plus de ça, il y a marqué que c'était ta compagne. Bien qu'elle soit ta compagne. Compagne, compagnon, c'est quoi? C'est un ami intime. C'est un ami intime avec qui on partage tout. On partage les joies, on partage les peines. On se connaît tellement bien. On se soutient, on a une complicité, on s'entraide. Voilà ce que c'est une compagne. Et il y a encore une troisième chose. Bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. C'est avec cette femme que ces hommes avaient fait une alliance. Parce que le mariage, c'est une alliance. C'est une alliance de sang. Et l'alliance de sang, c'est l'alliance la plus forte. On ne peut pas la briser, cette alliance. Elle a des répercussions dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit. C'est une alliance qui est naturelle, qui est spirituelle. Voilà, voilà cette haute trahison. Trahir cette relation, c'était complètement contre nature. Complètement contre nature. Ces hommes étaient coupables de haute trahison, infidèles à l'alliance de Dieu, infidèles à leur propre peuple, infidèles à leur propre alliance avec leur épouse, quelque part infidèles avec eux-mêmes. Ils mettaient en péril la foi de leur peuple, la vie des plus fragiles, les femmes et les enfants. Ils s'attaquaient en fait à leur société, ils fragilisaient leur société. Mais en plus de ça, ils étaient infidèles à la personne même de Dieu. Pourquoi? Non seulement parce qu'ils ne respectaient pas les clauses de l'Alliance, mais regardez. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. L'Éternel était le témoin du mariage de ces hommes et de ces femmes. Alors, en rompant cette alliance, ils étaient infidèles au témoignage de Dieu, à Dieu lui-même. Le rôle d'un témoin, il est vraiment important. En plus de ça, c'est Dieu qui a mis en place le mariage. C'est Dieu qui a institué le mariage avec Adam et Ève. Et puis ensuite, il a choyé ce mariage. Et pour Abraham, sa descendance, il n'a pas été d'accord qu'elle vienne d'une autre femme que de sa femme, Sarah, pour pérenniser l'alliance et la promesse qui amènerait au Messie. Le mariage pour Dieu, c'est tellement important. Déjà dans l'Ancien Testament, il est question de Dieu qui est l'époux et Israël son épouse. Et pour nous aujourd'hui, on sait que Jésus, c'est l'époux, parce que Jésus est Dieu et l'Église, son épouse. Et en fait, déjà on peut penser au mariage eschatologique, aux noces de l'agneau. C'est pour ça, le mariage, il est vraiment, vraiment important. Il a une portée prophétique, pas seulement physique, terrestre. Un mariage, c'est pas juste une petite tranche de vie sur terre. Ça a une portée qui est tellement plus grande que je crois que humainement, c'est vraiment difficile à le comprendre. Et Dieu, il a été témoin. Il a été témoin de ce mariage. Moi, ça m'est arrivé un jour d'être témoin. J'ai des amis qui se sont mariés, ça fait des années, ça fait plus de 25 ans. Et plusieurs années après le début de leur mariage, ils ont eu des enfants, puis il y a eu un moment où c'était vraiment difficile. J'avais l'épouse au téléphone qui me racontait que c'était difficile, mais voilà, une conversation un peu normale. Mais moi, j'ai senti un danger. J'étais pas bien. Et ça m'insupportait quelque part. Et je lui ai dit, passe-moi ton mari. Et puis elle m'a passé son mari. Parce que j'étais témoin du mari. Et je lui ai dit, tu sais, j'ai été témoin de votre mariage. Et moi, je sais que Dieu était là. Et je sais qu'il est toujours là. Je sais que ce que vous vivez est difficile, mais moi, je sais que vous êtes faits pour être ensemble. Ne lâche pas, n'abandonne pas. Je ne me souviens pas du reste de la conversation. Mais je sais que c'est comme si j'avais été mandatée pour lui dire, mais moi, j'ai été témoin, tenez ferme. Ben là, ça fait plus de 25 ans qu'ils sont mariés, ils sont grands-parents, et puis ils vont bien mieux qu'à cette époque-là. Alors ils ont mis en place ce qu'il fallait, et ça ne veut pas dire que c'était facile, et aujourd'hui encore, ce n'est pas facile. Mais la notion de témoin, ce n'est pas juste le fun dans vos mariages, on met notre signature, il y a vraiment quelque chose, et Dieu, il est témoin de notre mariage. Et en même temps, Dieu nous montre, mais il y a des possibilités. Les difficultés, elles seront là, qu'on soit marié ou qu'on ne le soit pas, de toute façon, les difficultés, elles sont là. De la souffrance, il y en a. Dans toutes les vies, il y a de la souffrance. Mais Dieu, il peut nous donner les moyens d'aller plus loin. Dieu peut nous donner les moyens de guérir, d'être restauré. La difficulté dans un mariage, c'est qu'on est deux. Et si les deux ne veulent pas faire les efforts qu'il faut, c'est compliqué. Si les deux ne sont pas prêts à se repentir, si les deux ne sont pas prêts à voir leur tort, si les deux ne sont pas prêts à pardonner, si les deux ne sont pas prêts à appliquer la parole de Dieu à la lettre, c'est compliqué. C'est possible, mais c'est difficile. Et chaque vie est différente, chaque parcours est différent. Alors là, dans ce texte de Malachie, on n'est pas dans le contexte de « le couple va mal, c'est difficile, on va se séparer. On est dans le contexte d'hommes mariés qui se disent ben, « En fait, mon épouse, elle m'a fait mes enfants, tout ça, j'ai fait ma situation, c'est bon, j'en ai plus besoin, je la jette, puis j'en prends une autre. Puis quand j'en aurai plus besoin, j'en prendrai encore une autre. » On est dans le cas de figure où ces hommes et ces femmes, on voit pas en fait qu'ils essayent de restaurer quelque chose. On n'est vraiment pas dans ce cas de figure-là. On est dans le cas de figure de l'utilisation à usage unique. Mais il y a d'autres cas de figure. Et il y a effectivement les cas de figure où c'est difficile dans un couple, où on essaye et on n'y arrive pas. Parfois, la séparation est encore peut-être la meilleure chose, dans le sens où il y a des situations qui sont tellement douloureuses, qui apportent une telle souffrance, que ça peut même apporter des choses du danger, en fait. Parfois, les gens sont en danger, que ce soit les conjoints, que ce soit les enfants. Il y a des situations où certainement que la séparation, c'est la meilleure solution quand on n'arrive pas à faire autrement. Parce que nous sommes dans un monde déchu, et que nous avons tous notre parcours, nous avons tous nos brisements, et c'est avec ça qu'on fait. C'est avec les ressources qu'on a là où on en est aujourd'hui et demain. Mais encore pour toutes ces situations, Paul nous donne des prescriptions de comment gérer ces choses-là. On a lu pour ceux qui se convertiraient une fois qu'ils sont mariés avec des personnes qui ne sont pas chrétiennes. Mais maintenant il le dit par exemple pour ceux qui ne sont pas mariés, c'est-à-dire ceux qui n'ont jamais été mariés, ou alors pour les veuves. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de maîtrise d'eux-mêmes, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Et ensuite, il parle à ceux qui sont mariés, ou qui pourraient se séparer. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Ça, c'est les prescriptions qu'on a pour aujourd'hui dans la parole, au travers de l'apôtre Paul. Malachie conclut. Prenez donc garde en votre esprit, et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit, et ne soyez pas infidèles. Ne soyons pas infidèles. Ne soyons pas infidèles les uns avec les autres, ne soyons pas infidèles envers Dieu, ne soyons pas infidèles envers nous-mêmes. Israël a été choisi pour montrer le chemin jusqu'au Messie. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes choisis pour montrer le Messie à notre génération, pour montrer que Jésus-Christ est ce Messie. C'est un privilège de refléter Jésus, c'est un privilège d'être le sel de la terre, la lumière du monde, mais c'est une responsabilité. C'est une énorme responsabilité. Jésus dit que celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, je me ferai connaître à lui, celui qui garde mes commandements. Et c'est ce qu'il nous demande. Gardez mes commandements, gardez mon alliance. C'est pratiquement le même mot. Gardez mon alliance, gardez mes commandements. Dans les psaumes, ça revient toujours ces deux mots. C'est la même chose. Appliquons la parole à nos vies. Et sachant que nous avons tous une responsabilité envers le mariage, pas seulement envers le nôtre. Dans Hébreux 13,4, il est dit que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Que le mariage soit honoré de tous. Ça ne veut pas seulement dire que l'homme et la femme honorent leur propre mariage et leur lit conjugal. Ça veut dire que toute la communauté honore le mariage. Ça veut dire quoi ? Eh bien, les femmes, habillons-nous décemment, par exemple. Les hommes, mettez un voile à vos yeux. Ne poussez pas quelqu'un avec quelqu'un d'autre si ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Ne poussez pas quelqu'un à se marier, à avoir une relation si c'est pas juste. Et quand vous voyez qu'il y a un couple qui bat de l'aile, regardez de quelle manière vous pourriez les aider. Quand vous savez que quelqu'un s'est séparé et que de toute façon il y a de la souffrance, regardez de quelle manière vous pouvez aider. Ça peut être simplement par la prière, ça peut être par des services rendus, ça peut être juste par une écoute attentive. On n'est pas là pour juger, on est là pour accompagner. On est là quand c'est possible de donner des conseils, mais ça c'est très délicat aussi. Il faut soupeser, mais c'est notre responsabilité à tous de s'entraider dans ce domaine-là. C'est notre responsabilité à tous. C'est la parole qui le dit. Alors soutenons-nous les uns les autres. Exhortons-nous à garder cette vie conforme que le Seigneur nous demande. Supportons-nous les uns les autres. On sait combien c'est difficile. Dans tous les domaines de notre vie, c'est difficile. Pas seulement dans celui-là. Ce texte est dur. Mais il est tellement repris dans le Nouveau Testament qu'on ne peut pas passer à côté. Je vais m'arrêter là. Et je pense qu'on va prendre juste un moment de silence et peut-être un temps de prière pour qu'on puisse prier pour l'Église à propos de ce sujet-là. Que le Seigneur vienne nous visiter encore, nous donner sa paix, nous accompagner, nous montrer comment vivre avec ces commandements qui sont dans sa parole. Quand c'est tellement difficile.